Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Auditeur, auditrice de Erdiwa, bonjour. Pour l'interview du jour, Nénu et moi-même, nous nous trouvons dans le studio de Erdiwa avec Pascal Domas du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Pascal Domas, vous êtes participant au festival de l'écologie au quotidien. Le thème cette année, solidaire pour une terre vivante. Et donc vous représentez le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Bonjour Pascal.
Bonjour à vous et merci de cet accueil.
Voilà, alors on aimerait d'abord vous connaître un petit peu plus. Qui êtes-vous et d'où venez-vous?
Alors d'abord je passe et je repasse à Die, grâce entre autres aux rencontres qui sont d'abord un lieu de rencontre fin janvier. On est au cœur de l'hiver, mais les cœurs sont chauds et les pensées et sujets sont vifs en ce moment, comme depuis 20 ans. C'est une belle initiative qui prend forme et surtout qui depuis des années déjà, a en visée la notion systémique. Vous avez, votre sujet, c'est l'alimentation, mais lié à la santé et aujourd'hui, bien au-delà du logement, de la culture, tout est lié. Comment faire système demain, car aujourd'hui, il y a des choses à changer. C'est le sujet qui m'intéresse par le biais de l'alimentation aujourd'hui.
Voilà. Effectivement, notre sujet que nous tentons d'explorer, c'est la santé et l'alimentation. Le lien qu'il existe entre la santé et l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'être égaux, solidaires sur ces questions-là, sur la question de la santé dans l'alimentation. Donc la première question qu'on aimerait vous poser, Pascal Domas, c'est ce collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, comment est-il né ?
Un peu avant 2016, mais surtout 2018, le collectif est créé. Et je tiens à dire que je parle, moi, au nom de Réseau Salaria, qui est une des associations d'éducation populaire intégrée, donc complice, on va dire, d'une dizaine d'autres structures à l'échelon national qui œuvront justement sur cette idée de la sécurité sociale de l'alimentation, qui a une forte imprégnation de ce que l'on appelle le « déjà là », de la sécurité sociale de la santé, qui s'est mise en place à partir de 1946 et jusqu'en 1967 par nous-mêmes citoyens. L'État, à l'échelon macro, gérait la situation, mais tout était décidé dans des caisses locales. Ça, c'est déterminant pour la suite.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont s'est créée la sécurité sociale ? Comment, justement, cette question-là, peut-être d'autogestion, comment elle a été en œuvre sur cette réforme-là ?
Oui, il faut du coup parler un petit peu avant. La Sécu, elle existe déjà avant 1945, par les mouvements ouvriers, par les religions, par les églises, par les patrons. Mais il va y avoir donc des caisses, on va dire, de solidarité qui vont se construire, qui vont se créer au niveau ouvrier, qui vont être reprises et éventuellement démultipliées par les patrons, par les instances religieuses, et les mutuelles vont se créer. Mais tout ça avant 1945, c'est une multitude d'initiatives, mais qui ne sont pas décidées par le plus grand nombre. Nous, citoyens, à partir de 1946, c'est là, et c'est un fait, grâce aux 5 millions de cégétistes de l'époque. Il va y avoir une manne répartie partout sur le territoire qui va permettre à une personne illustre, oubliée de notre histoire, qui s'appelle Ambroise Croizat, qui va mourir d'épuisement à 50 ans, mais qui va œuvrer. Il va avoir, un enterrement à la Jean Jaurès, comme on dit, des dizaines de milliers de personnes à son chevet pour justement marquer le fait de cette empreinte qui leur a permis, justement, en étant ministre du Travail, de lancer ce grand projet de santé qui, vous le savez, dans les années 70, était un représenté en tout cas comme le plus abouti à l'échelon de la planète et qui aujourd'hui est depuis 1967 bien attaqué.
Donc, un système qui est basé sur la notion de solidarité et de répartition des richesses. Des hommes et des femmes se sont battus, donc, et même sont morts d'épuisement pour que un tel système puisse exister. Mmh. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a forcément des dangers et que c'est un système qui reste fragile et qu'il faut continuer à défendre.
Oui.
Plus précisément encore, vous abordez là, avec ce collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, la question du droit de tout un chacun, chacune, pouvoir se nourrir dans de bonnes conditions pour justement rester en bonne santé. Mmh.
Tous les mots sont là, merci.
Voilà. Donc, dans votre collectif, vous déroulez trois piliers principaux. Et le premier, c'est la notion d'universalité, c'est-à-dire...
La santé nous disait, et Ambroise Croizan le disait, bénéficier selon ses besoins et cotiser selon ses moyens. Et une première des choses que l'on remet à l'ordre du jour, c'est nous avons un salaire net qui tombe en poche et ce qui est déduit de notre salaire, ce n'est pas des charges. C'est du salaire, toujours, mais socialisé, qui va dans une caisse qui, entre 46 et 67, est géré par des caisses de citoyens élus. Et à partir de 67, De Gaulle revient, et puis les alternances gauche-droite ne changeront rien à l'affaire. L'objectif, c'est d'envoyer tout ce système de solidarité, de le privatiser, parce que c'est une manne économique. Voilà, on passe d'une notion de gestion des communs et en particulier de chacun apportant sa valeur. Nous sommes tous créateurs de la valeur économique. Ensuite, cette valeur, c'est comment on la répartit. Et tout l'enjeu aujourd'hui qui est là, nous ne sommes pas dans une situation, dans une phase de, anthropologique de ce que l'on appelle le... Enfin non, je vais le dire directement, nous sommes aujourd'hui dans une phase capitalocène. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des décideurs aujourd'hui qui politiquement sont engagés vers une économie du toujours plus. Voilà. Je ne vous fais pas le dialogue du « on est sur une planète avec ses limites » et que tout le monde, je pense, a intégré plus ou moins aujourd'hui.
Donc, effectivement, dans votre collectif de sécurité sociale de l'alimentation, vous revendiquez aussi le fait d'être organisé démocratiquement.
Alors aujourd'hui, dans le collectif, c'est là tout l'enjeu, en fait. Il ne s'agit pas de tout décider maintenant. Il s'agit, effectivement, notre travail, d'abord, il est de comment on se coordonne, comment on s'organise ensemble et du coup, comment on met en place des rouages qui, demain, pourront permettre, soutenir, aider à ce qu'on remette en place des caisses locales pour décider ensemble, avec le plus grand nombre, et en tournant, hein, évidemment, pas de, comme dans les associations, comme des présidents, on est élu à 20 ans, non, tout de suite, et comment on tourne, ce qui permet de prendre conscience, de monter en compétence et du coup de se rendre compte que oui, effectivement, faire manger tout le monde, c'est pas simple. Et tout le monde a des besoins comme la santé différents et du coup, c'est comment on gère ça au mieux, localement, et faire remonter justement à l'échelon pas pyramidal, mais à l'échelon macro, justement, pour réguler effectivement des grands problèmes d'infrastructure qui faciliteront justement les rouages des plus petits.
Combien vous êtes dans ce collectif ?
Une douzaine de structures et un certain nombre sont portées par plutôt une personne et d'autres par effectivement un collectif, et ça je le revendique moi comme, on va dire, animateur, entre autres sur le réseau Salaria. L'objectif, c'est depuis 10 ans le but de l'association, et c'est marqué dans ses statuts, c'est comment on décide ensemble, et pour reprendre la démarche de réseau Salaria, qui a pour objectif que l'on reprenne tous et qu'on soit tous responsables des moyens de production. Demain, on reprend les moyens de production, tous, que ce soit l'alimentation comme tout le reste, logement, urbanisme, j'en passe, et comment on décide ensemble, mais en responsabilité et en conscience, évidemment. Et du coup, on a une trentaine aujourd'hui de groupes locaux un peu partout en France. C'est eux qui sont décideurs et qui se réunissent tous les 3 mois pour, et qui abordent donc un mois avant un certain nombre de sujets, pour le décider ensemble. Et là, voilà, c'est que l'association, justement, travaille lui-même à cette démarche et le transpose au collectif, qui est évidemment, avec tout un tas de sujets où on est plus ou moins d'accord, et voire pas du tout d'accord, ce qui est, c'est la vie. C'est la biodiversité qu'on doit, j'allais dire maîtriser, mais non, qu'on doit justement enrichir et par contre permettre ensemble de décider.
Un des 3 piliers donc de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation est donc, on le disait tout à l'heure, et la notion de cotisation sociale. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire simplement qu'est-ce que ça veut dire, la cotisation sociale, et comment ça marche? Quel est le principe?
Ouais, universalité donc pour tous, hein, qu'on soit riche, pauvre, petit, grand, moyen, migrant, ça sera à nous de le décider. Majeur, pas majeur, à quel âge, enfin voilà, tout ça on le décide ensemble. Donc, et pas de stigmatisation comme aujourd'hui le crée l'aide alimentaire. Ça, c'est une première des choses. Ensuite, démocratie, évidemment. Et après, la notion économique, ben, voilà, c'est qu'est-ce que l'on décide de ce que l'on produit ensemble qui fait richesse et comment on le répartit. C'est démocratique, mais évidemment, c'est aussi économique. On n'enlève pas l'économie. Et économie, écologie, donc l'économie vient de écologie. Écologie vient de gestion de nos ressources. Donc autrefois, c'était plutôt du... On n'a pas vraiment troqué, mais en tout cas, on échangeait facilement un bout de viande contre des carottes. Aujourd'hui, effectivement, il y a un système monétaire qui a créé jusqu'à des salaires. Et voilà, nous ne sommes pas des êtres de besoin. Nous ne devons pas finaliser, continuer dans la notion d'aide alimentaire. Nous sommes des gens légitimes, responsables et surtout capables, car nous créons la valeur.
Comment justement on évite cette stigmatisation de l'aide alimentaire? Comment l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation permet d'éviter cette stigmatisation-là?
Je donne un exemple très, très simple, de façon à parler aussi localement de Camille, qui fait partie d'élus de Dieu le Fit, qui ont créé, démarre une expérimentation locale de sécurité sociale de l'alimentation et non pas alimentaire, pour ne pas faire référence à l'aide alimentaire, sécurité sociale de l'alimentation, qui a été à un moment donné aussi un système paysan, parce qu'effectivement, on s'est d'abord approché des paysans et de leurs conditions calamiteuses aujourd'hui et depuis déjà trop longtemps. C'est veiller effectivement à nos paysans, mais à toutes les personnes qui sont productrices sur toute la filière, de la production de la terre jusqu'à la transformation, bien sûr, la distribution et la consommation, bien sûr. Tout ça, ça concerne aussi, c'est un enjeu clé qu'il faut intégrer, 70 à 80% de femmes. Et là-dedans, il ne faut pas oublier qu'on a en plus, en parallèle, le travail invisible qui est de nourrir quotidiennement la personne, donc chez soi. Et là, c'est plus de 80% les femmes qui gèrent à faire les courses, à faire les cuisines, à s'occuper des enfants. Ce travail invisible, c'est aussi, pour partie, plus de 2 millions de personnes, pour la plupart retraitées, qui ont le moyen d'être, hein, puisqu'on les met à la retraite, ils deviennent inutiles. Ben non, ils ont un besoin fort d'être et du coup, ils sont beaucoup dans ces zones qui aident à l'alimentation. Mais on stigmatise. Et je donne un exemple clair que Camille et son équipe et producteurs et autres ont mis en place. C'est un petit magasin déjà, c'est un nouveau magasin. C'est pas un lieu où afficher secours populaire ou autre, où voilà, je vais rentrer là-dedans, donc forcément je bénéficie de l'aide alimentaire. Non, c'est un magasin lambda, comme tout magasin de distribution, et à l'entrée, il y a trois billes de trois couleurs différentes, avec une couleur pour le petit prix, une couleur pour le prix normal de ce que le producteur estime être, donc à 100%, et un prix augmenté de 125%, du coup, avec une autre couleur. Et donc, tu prends discrètement ta bille, tu fais tes courses, et à la caisse, discrètement, tu vas pouvoir donner cette bille, la personne saura et adaptera justement le prix. Et voilà, voilà une... Et c'est très simple, je pense qu'un enfant de 6 ans a compris, hein, que là, on ne stigmatise pas. Et voilà, l'objectif, c'est effectivement de redonner de la dignité à tous, aux pauvres. Et qu'est-ce que c'est qu'un pauvre aujourd'hui? Non, nous sommes tous pauvres de cette situation misérable dans laquelle on se positionne.
Voilà, et l'expérimentation dont vous parlez donc, a lieu à Dieulefi et ça s'appelle le marché du lavoir.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc on aura sans doute l'occasion de les rencontrer prochainement. Cette expérimentation est soutenue par une des élues de la commune de Dieulefi.
Oui.
Donc la question qui vient, ça pourrait être: quel est le lien que vous avez justement avec les élus? Comment vous transmettez le fruit de votre travail, de vos recherches, de vos discussions pour pouvoir les faire remonter petit à petit à ceux et celles qui sont en charge d'orienter les politiques locales ou plus largement nationales?
Effectivement, l'objectif, c'est d'influer, c'est de peser et donc de structurer autre chose. On est bien d'accord, ça commence. Pour eux, c'est le béaba et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ne seront pas aux rencontres de l'écologie non plus cette semaine, parce qu'ils partent sur Orléans pour 3 jours, la fin de semaine, pour justement rencontrer d'autres initiatives locales qui démarrent partout en France.
Qui ça?
Une partie du conseil municipal avec des producteurs, mais aussi des consommateurs partent donc sur ces 3 jours pour aller écouter et puis élargir et surtout fédérer toutes ces initiatives et faire fond commun pour justement avancer, mais pas dans l'axe de l'aide alimentaire. Je tiens à préciser qu'ils sont en relation avec le système de l'aide alimentaire et aujourd'hui c'est un enjeu qui est très important et qui peut être aussi stigmatisant pour ces personnes à la retraite qui donnent tout leur cœur à nourrir des personnes en situation de faiblesse. Et il ne s'agit pas, eux, de les stigmatiser. Donc, c'est comment on ne met pas à la place d'eux, mais comment on avance, justement, à transformer quelque chose aujourd'hui qui ne fonctionne pas, et plus encore, qui enrichit le système de distribution, à l'heure actuelle en France, ainsi que l'agro-industrie alimentaire.
Donc vous tentez de développer un réseau qui petit à petit va à la rencontre aussi d'autres acteurs de France et peut-être d'Europe. Vous avez, par exemple, dans cette initiative qui se trouve à Dieulefi avec le marché du lavoir, un maraîcher, lui qui pour le coup est en activité, qui est un travailleur de la terre, qui met en mouvement son activité pour vous rejoindre.
Un maraîcher, un producteur de pommes aujourd'hui et un boulanger. Hein, ils ont commencé comme ça. Voilà. Et ça représente 50 personnes par semaine au niveau du magasin. Et voilà, ça démarre petitement, mais je dirais tant mieux, hein, pour effectivement s'adapter petit à petit au fur et à mesure de ce qu'ils vont rencontrer comme problématique. Et voilà.
Est-ce que vous avez connaissance d'un autre lieu d'expérimentation un peu plus loin en France, peut-être, avec lequel vous êtes en lien et avec lequel vous vous inspirez les uns les autres pour progresser?
Au plus près, du coup, je vous invite à aller au Maquis, qui se trouve à Lauris, L-A-U-R-I-S, et ils mettent à l'heure actuelle donc structure sociale, vers les migrants et vers les plus démunis, mais pas seulement, pour comment faire société et avec la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ils expérimentent, comme lors, comme tout le monde le connaît, de la Convention citoyenne sur le climat, ils recréent à l'échelon microscopique, là pour le coup, 50 personnes sont recensées, tirées au sort sur Pertuis, 25 sur Cannes, qui est un petit village un peu moins important, et ensemble, pendant 6 mois, ils vont se réunir tous les 15 jours pour justement créer cette...
nationale.
Donc symboliquement, mais en travail, cette caisse de sécurité sociale de l'alimentation et de faire ressortir toutes ces réflexions, questionnements, idées et ça aider avec 2 sociologues.
Comment du coup ces structures, indépendamment les unes des autres, comment elles arrivent à se mettre en lien et comment on peut imaginer du coup une sécurité sociale ? On comprend bien que c'est des petites structures qu'il expérimente,
oui.
Mais le commun des mortels, enfin tout le monde ici en France ne reçoit pas déjà, enfin disons que c'est pas un projet qui est forcément discuté à l'échelle nationale. Donc comment en fait ces petites structures peuvent créer un maillage suffisamment dense pour arriver à ce que tout le monde puisse bénéficier de ça?
Évidemment, là par rapport à ce qui s'est créé en 46 avec la santé, là on marche à l'envers. Hein. C'est Ambroise Croizat qui promulgue, qui applique justement partout avec des circulaires, qui applique partout en France un modèle. Et donc on trouve un local, il y a des élections, on élit des personnes et on travaille surtout évidemment et avec la force du coup la matrice de l'État à sensibiliser ceux qui vont devoir décider comme ceux qui vont devoir être soignés. Et le film La Sociale de Gilles Perret, sorti en 2016, mais il faut le voir et le revoir, ce film. Il est complètement d'actualité par rapport à ce qu'on a à vivre et recréer par la sécurité sociale de l'alimentation. Autrement dit, en 46, on sort de la guerre, c'est compliqué. Il faut tout restructurer. Il faut d'abord trouver des locaux et déjà, malgré le fait que les élus, l'extrême droite et autres, et mal en point, les patrons ont collaboré, c'est le bordel, et ils font... Malgré là, déjà, il y a des résistances pour même déjà trouver un local. Mais voilà, là, il y a des forces vives et on construit des locaux quand il n'y en a pas. Et ensuite, en fait, pourquoi en 9 mois, dites-vous bien, en 9 mois, tout s'enclenche en France ? Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde comprend très vite, et effectivement avec la ramification des 5 millions de syndicalistes, mais c'est sûr d'autres aussi, mais ce qu'on est en train de construire là, c'est pour chacun, et chacun dans sa chair est meurtri, parce que son grand-père, son grand-mère, la retraite, ça n'existe pas. Mon cousin, il a dû vendre une vache pour pouvoir permettre d'opérer mon enfant de l'appendicite. Ils sont dans le concret. Ils savent exactement ce dont ils ont besoin pour enclencher justement un système qui permette à tous de garantir une santé. Et du coup, de là, après, va cette formidable émergence, ça va créer les hôpitaux qui n'auront pas ou quasiment pas besoin de crédit. C'est par la force de travail générant de la valeur économique que l'on va soutirer de la subvention par rapport à notre valeur ajoutée, et créer, construire et améliorer les hôpitaux.
Là maintenant, est-ce qu'on est en mesure d'identifier nos besoins ? Est-ce que ce besoin de l'alimentation, est-ce qu'il est partagé ? Est-ce qu'il est reconnu ? Et est-ce qu'il est revendiqué ?
Revendiqué. Vous parlez des partis ? Non, ils en parlent évidemment, puisque c'est un truc qui est en train de germer partout. Donc tout le monde en parle, mais surtout, il ne faut rien toucher au système. Hein, on est bien d'accord, hein, on est dans le capitalocène. Là, hein. Ceux qui gouvernent, ils n'en veulent pas de la sécurité sociale de l'alimentation. Hein. De la même façon que le RIC, ça fait 20 ans qu'il est dans leur programme, mais personne n'en veut. Que ce soit de la gauche comme de la droite, hein, on est d'accord ? Référendum d'initiative citoyenne. Tout ce qu'on doit décider, on le décide ensemble.
Pour en revenir à tout ça, la stratégie, quelle est... Maintenant, la stratégie pour essayer de mettre en place une forme de sécurité sociale comme celle-ci ?
Eh bien, la stratégie, elle est opportuniste. Merci le Covid. On est en 2010. Il y a 3 millions de « pauvres » entre guillemets qui ne mangent pas à leur faim. OK. En 2020, le Covid est passé. On est entre 6 et 7 millions 5. Voilà la force. Les gens ont faim. Et pourquoi la répression des gilets jaunes ? Ben voilà, c'est qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en France. Parce qu'on a faim, parce qu'on finit pas les fins de mois, parce que, d'où la répression. Et malheureusement, la répression va continuer, effectivement, jusqu'aux extrêmes, parce que le capitalocène, évidemment, ceux qui décident ne vont pas lâcher. Mais plus on sera nombreux, justement, et c'est déjà le cas, plus effectivement ça va se répandre fortement, et ça sera l'enjeu, voilà, se dire que ça va se passer dans la bonne humeur, ben non, mais effectivement il se passe quelque chose aujourd'hui qu'il est impossible de mesurer. Mais vous êtes là, vous avez la volonté justement d'en parler, et vous faites partie de ces chevilles ouvrières pour permettre aux uns et aux autres de prendre conscience que solidairement, on arrivera à bien des choses. Et c'est ce qui se passe tous les jours, à toutes les heures, entre 10h et 22h, ici, à Die. Vous avez une chance extraordinaire de gens qui viennent. Justement, comme vous le disiez, il y a besoin de savoir un petit peu, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de se nourrir en bio en France ? Ben non. Aujourd'hui, on a 3 jours d'autonomie dans les supermarchés. 3 jours d'autonomie dans les supermarchés. Bref, je ne vais pas parler la politique du chiffre, c'est pas mon truc. Mais non, effectivement, nous ne sommes pas en France. On n'est pas autonome. Mais une superbe réunion il y a 2 jours, en 1900. Là, ça, je pense que c'est important. Et il y a des photos à l'appui, c'est extraordinaire. En 1900, en France, nous sommes autonomes localement à 90%. 1950, 80%. Aujourd'hui, je vous le rappelle, on a 3 jours d'autonomie. Et quand on reprend les vieilles photos autour des hôpitaux, autour des écoles, c'était vivrier. Aujourd'hui, c'est des pelouses, c'est du bitume, des parkings et autres. Il faut juste se poser les bonnes questions. L'alimentation vient de bien trop loin.
Alors, vous développez un réseau, vous travaillez pour produire de la connaissance, de la réflexion, mener des actions très concrètes que vous soutenez, par exemple le marché du lavoir à Dieulefit. Vous tentez, et on voit bien qu'il y a des résistances, de vous adresser et de sensibiliser les politiques pour que on puisse plus ensemble encore développer un système différent. Il y a des résistances, c'est compliqué, mais est-ce que vous avez la possibilité, j'allais dire un peu, d'infiltrer d'une certaine manière au moins les lieux publics ? Vous parliez des écoles, des EHPAD, des maisons de retraite, en tous les cas, de ces endroits qui sont censés prendre soin du public qu'ils accueillent. Une cantine scolaire, par exemple. Est-ce que vous êtes en lien avec ce style, ce type de structure ?
Oui, mais bien sûr, partout. Et sans doute sans savoir tout ce qui peut se créer par ailleurs. Effectivement, d'en parler sur votre radio, c'est des gens qui vont se mettre en marche, mais qui le sont déjà depuis 10 ans. Le no alternative, vous savez, Thatcher et compagnie. Avec Alternatiba et tout un tas de mouvements depuis 10 ans, Extinction Rébellion dernièrement, tous ces mouvements de jeunes et de femmes en particulier disent « non, ça suffit, les alternatives, elles existent voilà. ». Et tout ça, ça infuse depuis des années parce qu'effectivement, tous, riches comme pauvres, il y a une pression différente, évidemment, en fonction des uns des autres. Et ça, ce moment de changement, et on est obligé, malheureusement, de reciter des chiffres. La résistance en 1945, le basculement, c'est 3% de la population. 3%. Voilà, c'est à un moment donné, il faut redonner. Il ne faut pas 100% de personnes convaincues. Évidemment, non. Et peut-être même heureusement. Mais voilà, après, c'est le système démocratique, lequel, hein, et on se rend bien compte aujourd'hui que la représentation sert un système capitalocène.
Est-ce que vous avez un exemple de lieu de restauration public qui œuvre pour une santé et une alimentation de qualité qui rapproche celles et ceux qui produisent de la nourriture à destination donc des bénéficiaires de ces, ouais, ces endroits, okay, collèges, maisons de retraite, hôpitaux.
On est en train de collecter tout ça en fait, hein. Mais comme à mon avis il y a déjà tout un tas de collectes qui sont faites déjà. Alors quelques noms. Transiscope. Vous tapez Transiscope. C'est déjà, ça fait déjà plus de 5 ans en fait, différents réseaux, qu'ils soient d'ordre écologique, social, même politique, ont créé des cartes superposées pour permettre, là où on se trouve, de comprendre, saisir toutes les alternatives dans tous les sujets qui existent, premièrement. Ensuite, nous, ce qui nous rapproche plus de l'alimentation, les cuisines nourricières. Pareil, c'est aujourd'hui, de 30, ils sont passés à 60 en un an, de structures donc sociales, food truck, des écoles, bien évidemment, qui sont en chemin, les cuisines nourricières. Le mot gastronomie nous a été volé par la grande bourgeoisie. Ce qui a créé la gastronomie, le mot principal, c'est la notion d'accueil. La gastronomie a créé, j'ai passé 50 ans, 40 ans dans les cuisines, hein, j'ai été voir ces milieux-là, c'était 60% de gâchis alimentaires juste pour bien présenter dans l'assiette. Et au niveau énergétique, je ne vous dis pas, évidemment, les produits qui arrivent de toute la planète pour quelques assiettes, que ces gens illégitimes, ils ne finissent même pas leur assiette quand encore ils y jettent un regard. Voilà, j'ai vu ça. Le gâchis est énorme et le gâchis aujourd'hui, il est humain. Et stop.
Si on faisait l'hypothèse que dans les écoles et les collèges, on puisse prendre en compte la question d'une santé dans l'alimentation possible pour tous, ces endroits sont aussi des lieux d'éducation. Est-ce que vous avez des entrées dans ces endroits d'éducation pour transmettre ce que vous défendez et ce pourquoi vous militez?
Vous avez touché le cœur, hein, l'éducation. Ça veut dire demain. Ça veut dire comment on s'émancipe d'un système. Comment donc on éduque des enfants à s'émanciper eux-mêmes d'une éducation éventuellement dirigée. Voilà, ça, c'est le premier des points. Ensuite, je reprends une expérience personnelle. Dans les années 90, je suis dans ces écoles, pilote en plus. 1990, hein, la troisième semaine de septembre, je pars avec des instits, trois écoles, 90 enfants, pendant 3 semaines, comme on dit, au cul des moutons. Ça, ça n'existe plus. On met les enfants hors sol et évidemment, avec la technologie, c'est d'une facilité. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc effectivement, tous ces lieux, je suis persuadé qu'ils existent parce que moi, cuisinier, je me suis refusé à travailler pour Sodexo. Je me suis refusé et je suis sorti du mode gastronomique, l'élite, nourrir l'élite, non. Nourrir et accueillir tous, comme c'est le cas tous les jours ici aux rencontres de l'écologie. On a faim, on vient, on mange. Et ce qui permet de payer, de nourrir l'ensemble, parce que justement, il y a une popote qui est commune. Donc, mais vous avez mis vraiment le point là où il faut, c'est l'éducation. Et je vous le rappelle, autour des hôpitaux, autour des écoles, autour de tous ces lieux de vie, des villages, en 1900, on était autonome à 90%, tout le monde, les gendarmeries. Voilà, il faut quand même clairement identifier le problème. Le capitalocène, c'est aussi des problématiques à venir climatiques où il est important, là, de gérer des communs pour justement faire que des flux migratoires et autres, qu'on puisse absorber justement ces problématiques à venir qui seront malheureusement légitimes.
En développant du coup aussi une considération pour la solidarité et un ensemble de valeurs, devoir nourrir tout le monde et d'être ensemble dans cette mission-là, c'est-à-dire que tout le monde puisse investir sur les questions de production alimentaire.
Et du coup, un mot pour les gens de la culture qui ont été blessés aussi dans leur âme pendant le Covid à plus pouvoir se manifester. On a créé donc au mois de juillet de cette année pour Réseau Salariat donc une saison d'été sur la sécurité sociale de la culture. Effectivement, manger, c'est vital. Mais on se rend compte à la sortie, on va dire qu'on va sortir du Covid, parce qu'effectivement, on va finir par en sortir. La culture nous nourrit. Et la culture, elle n'existe pas seule. Donc elle recrée ce lien qui nous permet de retrouver le sourire, de bouger, parce que comme vous l'avez lié justement, la santé et l'alimentation, c'est aussi une forme de vie et c'est bouger, pas rester effectivement au fond du canapé, devant sa console, devant sa télé, qui nous envoie le message capitalocène. Et là, c'est réjouissant, formidable, comme enjeu pour toute cette jeunesse qui vient et qui écoute peut-être ce soir.
Peut-être que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur ce concept-là de capitalocène. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer parce qu'on en a... On l'a évoqué à de nombreuses reprises.
Oui, du coup, il commence à faire place, à remplacer le mot d'anthropocène. Soi-disant, donc on est dans une situation où c'est à cause de l'humain qu'on en arrive à toutes les catastrophes climatiques et autres. Non, ce n'est pas à cause de l'humain. C'est à cause d'un certain nombre d'humains qui, sous le récit, intégré dans même l'éducation, le capitalisme en fait. Enfin là, on a ça dans nos tissus puisque même à l'échelon de l'éducation, même ça infuse aujourd'hui dans l'éducation alors que l'émancipation, elle doit venir vraiment de là auprès de nos enfants, quoi. Et voilà, donc la publicité, enfin, et évidemment les médias aujourd'hui, et merci de ne pas en être, qui ne sont plus libres. Voilà. Et là, on aborde la liberté, quoi. Et c'est donc une farce du capitalisme de croire qu'il crée un modèle de liberté. Nous ne sommes plus libres. La preuve, ils en font malheureusement, tragiquement, la preuve au travers du Covid. Et j'ai besoin de citer donc Bernard Friot, qui est à l'œuvre avec Frédéric Lordon, qui ont créé, sorti un livre ce dernier mois, qui s'appelle « En travail ». Et pour nous, Réseau Salariat, ça c'est un signe aussi de bienveillance et aussi de... Friot a 75 ans et plus de 50 pour Lordon, c'est de se dire « on s'est trompé, même nous ». Et comment on se met en travail, donc à l'écoute de l'autre, en considération. Ça ne veut pas dire d'être d'accord sur tout, mais comment justement on travaille sur nos différences et que ça devient une richesse plutôt qu'une dualité.
Et évidemment, la notion de travail, la redéfinir, parce que le travail, ce n'est pas seulement s'en tenir à une tâche qu'on nous donne, c'est bien participer à un ensemble qui est censé prendre soin de tout un chacun, chacune.
Et donc pour nous, Réseau Salariat, le travail, c'est le mot-clé. Comment on travaille? Qu'est-ce que c'est que le travail? Et du coup... Le salaire à vie et pas le revenu de base. Le revenu de base, c'est vous toucherez une certaine somme, même si vous ne faites rien. Non, ça, c'est continuer la notion du RSA au village Emmaüs Escarpeau. Je vous invite vraiment à y aller du côté de Pau. Extraordinaire rencontre, vraie alternative puisqu'il y a une diversité formidable. Le RSA, pour eux, c'est le revenu sans avenir. Et de la même façon, si le système, évidemment, pose un autre élément qui s'appelle le revenu de base, ils ne changeront rien à l'affaire. Ils augmenteront peut-être de quelques 100 €, mais ils nous enlèveront une autre part des communs qui est entre autres celle de l'alimentation, celle de la santé qui va aller à la privatisation, et j'en passe, c'est des meilleurs. En sachant qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est ce qu'on appelle la valeur d'ajustement. Les gens, nous, chacun, on doit d'abord payer notre loyer et puis un certain nombre de choses. Et en dernier lieu, ce qui représente seulement 12% de notre salaire quand on en a un, c'est la part alimentaire. Et ça, c'est juste pas possible. Puisque en fonction de ce que l'on mange, nous sommes ce que nous mangeons. La santé est directement impactée. Alors évidemment, psychologiquement aussi, quand on est illégitime, comme le capital Hossein nous le fait dire, quoi. Nous ne pouvons pas décider, nous ne savons pas. Il n'y a que des élites pour décider pour nous. Ben voilà où on en est aujourd'hui.
Finalement, vous tentez en même temps, du coup, de faire reconnaître la valeur du travail que tout un chacun, chacune peut mettre à profit pour un ensemble, sans qu'on mette ça en lien avec, du coup, un emploi et un salaire. C'est-à-dire reconnaître le travail de chacun, chacune, pour le bien commun.
La clé, en fait, c'est d'être qualifié, que la qualification à la personne soit légitime, reconnue, et non pas la qualification par l'emploi. L'objectif, c'est de sortir du marché de l'emploi qui nous stigmatise si on n'a pas d'emploi, qui nous empêche de créer, d'être des créateurs. Combien d'ingénieurs aujourd'hui s'inscrivent, adhèrent à Réseau Salariat parce qu'ils sont en perte de sens. Tous ces jeunes qui sont bac plus, on n'en peut plus. Au moment du confinement, ils se rendent compte qu'en fait, leur travail, il est inutile. Voilà. Au village Emmaüs l'Escarpeau, c'est un lieu entre autres où beaucoup de jeunes viennent parce qu'on reprend, nos mains sont nos outils premiers. Et la tête est importante, bien sûr, il faut réfléchir. Mais les mains, c'est une base que l'on oublie malheureusement et que l'on nous fait oublier justement pour être dépendant d'un système qui, lui, produit comme il le souhaite. Et entre autres, une alimentation aujourd'hui qui nous rend trop malades et qui détruit la planète.
Finalement, c'est comment prendre soin de nos mains, de nos têtes, pour que finalement, on puisse être encore plus en harmonie avec quelque chose qui a du sens et qui nous mène dans un projet ambitieux, enthousiasmant et qui est censé soutenir le bonheur.
Oui, tout à fait. Et ce dont a besoin toute notre jeunesse qui est dans le doute aujourd'hui. Voir, et c'est légitime, dans la violence, parce qu'ils n'ont jamais demandé ça, évidemment.
Bon, nous, on aimerait avoir un petit mot parce qu'on reste dans le désir de rester encore optimiste et d'y croire. Est-ce que on peut continuer à rêver d'un monde meilleur? Est-ce que j'imagine que c'est ce qui vous soutient aussi?
Que nos rêves soient suffisamment grands pour les avoir toujours à vue. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est de bonne loi. Et les rencontres aujourd'hui sont en présentiel. Il y a une volonté citoyenne de résister. Résistons, mais effectivement avec le sourire.
Pascal, on arrive peut-être un petit peu au bout de ce premier moment de rencontre. On est tout à fait heureux de ce moment. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'essentiel qu'on a peut-être pas fait entendre pour cette première interview?
À vous de créer d'autres moments et de mettre en valeur toutes ces chevilles-là, ouvrières, qui sont en train de se relier. Et vous êtes des agents de reliance. Et pour nous, les médias, on a une critique, effectivement, et une analyse forte. C'est autorisez-vous à mettre à l'écoute tous et toutes pour qu'à un moment donné, effectivement, ce soit le citoyen qui dise lui non. Vous savez, le mâle aux cheveux blancs dominant qui laisse jamais la parole dans les. Qui se sent légitime. Non. Aujourd'hui, parole de femme, c'est elle qui a plus de 80% nous nourrissent.
Merci Pascal Domas. Vous étiez au Festival d'écologie au quotidien, solidaire pour une terre vivante, à Die. Merci beaucoup.
Merci.
Merci de votre accueil.
Mama Julia, mamita por Dios, y arroe, y arroe. Dígale a Juan que cierre el portón.